Si tout va bien, au moment où vous trouverez cet épisode en ligne, fin juillet, je serai déjà loin de la radio, affalée, pépère, sur une chaise longue, en connexion mystique avec le chant des cigales. Mais avant de partir, j'ai pris le temps de concocter un petit numéro spécial pour les vacances, léger, un peu comme les suppléments qu'on trouve glissés en bonus dans les magazines l'été. Une espèce de mini-rétrospective avec certains des intervenants que j'ai enregistrés cette année et que j'avais envie de retrouver pour qu'ils nous donnent un conseil, une idée, des pistes de réflexion ou d'activité à pratiquer, quelque chose que l'on puisse expérimenter ou laisser tranquillement infuser en nous avant de redémarrer la vie normale à la rentrée.
Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ?
Vivons heureux avant la fin du monde.
On est mal.
Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive.
Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio.
La première personne que j'ai recontactée, c'est le réalisateur et scénariste Anis Rally, que l'on a entendu cette année dans un épisode sur l'alcool, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il déboulonnait point par point notre mythologie nationale autour du bon vin.
Chaque moment, chaque événement, chaque type de soirée a son lot d'alcool particulier, et du coup, c'est comme ça qu'il faut consommer la soirée.
Et je lui ai demandé si, en matière de vacances, il pratiquait le même art du contre-pied.
Un réflexe que j'ai toujours eu et qui m'a toujours fait du bien, et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas la logique des gens, c'est de faire des activités seules. La notion de vacances, elle ne va pas avec le fait d'être seul. Ce n'est pas du tout encouragé. Le mot solitude, il est accompagné de moqueries. Ce n'est pas très hype. Alors que pourtant, il y a plein d'idées dans la notion de vacances qui peuvent se bonifier dans la solitude, quoi. Après, je pense que c'est possible parce que je suis fils unique. Donc, quand t'es fils unique en plus en banlieue et que t'es rebeu, t'es une anomalie, quoi. Ça veut dire que, du coup, j'ai toujours questionné le fait d'être tout seul. En mode, mais quand c'est que je suis tout seul, tout le monde a v'là les frères et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça précieux, moi. Ça m'a donné de la créativité, ça m'a fait inventer des trucs. Je me rappelle que, moi, l'une des premières fois que je vais en vacances, que aussi ma mère, elle m'a eu très jeune. Du coup, elle s'est fait des vacances. De jeune, quoi, mais j'avais 10 ans, moi. Donc je pense qu'elle avait peut-être 27, un truc comme ça. Elle part en Turquie avec ses potes, et je suis là, moi. Et du coup, elle faisait sa vie, elle était avec ses potes, et moi, j'étais à la plage tout seul, genre, de 9h à 17h. Et du coup, je me souviens, j'ai inventé un sport. Et j'étais là en mode, ok, c'est un sport dans l'eau et tout, il faudrait qu'il y ait ça comme règle. Et tu sais, je le pratiquais tout seul. Donc ça, c'est la loose. Ça, aux yeux des êtres humains, c'est ridicule. J'ai passé des bêtes de vacances. Moi. J'allais dormir et je me disais, j'ai hâte d'être demain pour pouvoir rebosser sur le sport. C'était un jeu, je sais pas, une sorte de water polo, tu vois. Ça existait déjà. Mais c'était un jeu avec un ballon, avec des gens dans l'eau, avec des cages. En fait, je pensais j'ai juste refait le foot. J'ai pas inventé un truc qui était viable, mais ça m'a hyper distrait. Enfin, le sport, c'est un terreau. Il y a tellement d'idées, les records, les mecs nuls, la défaite, la victoire. Ça m'a rempli une semaine de vacances, tout seul, juste avec l'imaginaire, quoi. Moi, je trouve que le vrai truc à essayer, c'est les vacances solo, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, un jour, j'aimerais trop le faire. Mais fais-le, quoi. Moi, ce que j'ai débloqué, là, depuis 7-8 ans, c'est de partir en vacances avec mes potes et de rester plus longtemps après. J'ai l'impression que j'ai trouvé la solution incroyable. Donc, vous partez 3-4 jours, je sais pas où, Amsterdam, en potes, et vous restez 3-4 jours après, tout seul, à Amsterdam. Et ça débloque tout, quoi. Parce que quand t'es avec tes potes, tu les kiffes, quoi. Ça veut dire quand tu leur dis « Vous êtes pas chaud, on va là ?» Ils disent « Non !» t'es heureux. Alors normalement, t'es en mode, oh, je voulais qu'on aille là-bas, personne m'écoute. Et là, tu te dis, mais c'est pas grave, j'irai tout seul, quoi. Souvent, les gens, en fait, comme t'emmagasines peut-être des frustrations, le fait de faire des concessions sans t'en rendre compte, les voyages, c'est hyper stressant, s'organiser, le temps que tu prends, il y a une pression énorme sur la notion de vacances, parce que tu te dis, j'en aurais plus avant, longtemps. Tous ces trucs hyper négatifs qu'on porte et tout, cette charge mentale des vacances qui est dingue. Et souvent, quand les gens me disent, moi j'ai envie de voyager seul et un jour, je ferai le truc ultime tout seul. Et déjà, c'est, je pense c'est une fausse piste, quoi. Parce que c'est justement là où c'est compliqué à faire. Je veux faire les 8 îles les plus rares de Thaïlande. Des fois, j'entends ça, je dis, mais là, c'est trop compliqué pour ton premier voyage tout seul. Moi, bon, j'ai toujours à faire de la promo pour mon pays, je suis trop chauvin. Mais en France, il y a des trucs de ouf, quoi. Aller en France pour voir juste 2 jours. Déjà, être dans un hôtel, c'est quand même incroyable. On oublie ce concept. Genre, être dans un hôtel. Et pareil, t'as ton déguisement là de touriste. Donc t'as le droit d'être tout seul. T'as le droit, en fait. Y a personne qui va dire, mais qu'est-ce que vous foutez là tout seul? S'émanciper de... On est obligé de rencontrer quelqu'un. Ça aussi, j'ai l'impression que ça vient un peu... empoisonner les activités souvent aussi. Parce que ça, j'ai vécu ça comme tout le monde quand j'avais la vingtaine, ça m'a pourri beaucoup de soirées, d'événements, de genre, mais putain, on a rencontré personne. Ah, c'était nul. Alors que non. Ça fait partie pour moi de ces injonctions qui peuvent faire que tu passes à côté, qu'en fait tu passes vraiment un bon moment. Moi, ça, vraiment, c'est un truc, ça fait plus du tout partie de moi. En fait, je pense que c'est un truc de masculinisme à fond où en fait, ça prenait tellement une place qui faisait que j'ai l'impression que j'étais pas moi. Je faisais semblant, en mode on va draguer des meufs et tout. Et en fait, je me rends compte que maintenant que j'ai découvert seul ce qui... Des fois, de rencontrer un mec, là je parle en tant qu'hétéro, ben, c'est tout aussi bien, quoi. Genre, d'avoir parlé avec un barman pendant 30 minutes, ça m'a rempli ma jauge sociale tout aussi... Enfin, bah moi, ça m'est déjà arrivé de me dire « je pars pas d'ici si j'ai pas un numéro ». Alors que c'est absurde, quoi. Et j'y arrivais et ça servait à rien, quoi. Genre, après, t'as le numéro de quelqu'un où tu t'es forcé, vous avez un peu sympathisé, le lendemain, t'as pas envie. Il n'y a pas eu tant de flirt, il n'y a pas eu tant de trucs, t'as juste un numéro froid comme ça. Donc ça sert à rien, quoi. Ça venait juste gonfler un ego, un esprit de groupe masculin un peu toxique et tout, que je vais pas mentir, dans lequel j'ai baigné et qu'il faut déconstruire.
L'autre intervenante que je voulais retrouver, c'est la pétillante linguiste Julie Neveu. Je l'avais enregistrée pour l'épisode sur le langage de l'amour. Ça date de 2023.
Dans le langage se logent un peu partout des résidus de fantasmes, de monogamie, d'unicité, d'éternité.
Julie Neveu est autrice de livres passionnants sur la linguistique. Elle est maîtresse de conférences à la Sorbonne, agrégée d'anglais. Et j'aime beaucoup l'humour avec lequel elle arrive à clarifier les choses très compliquées qui se jouent sans que l'on en ait conscience dans notre langage de tous les jours.
Eh bien, je me suis dit que j'allais profiter de cet été pour essayer de rééquilibrer l'espace intime et l'espace extime du langage. En fait, l'extimité, c'est une notion qui est utilisée aujourd'hui pour décrire ce qu'on fait quand on parle de soi sur les réseaux sociaux. Une forme de façonnement de notre identité numérique qui recherche la validation de soi par le regard des autres. Et donc c'est sûr que je trouve que ces derniers mois, j'ai passé un peu trop de temps du côté du langage extime. J'ai été très attentive à ce qui se disait, j'ai beaucoup dit je, à essayer de formuler notamment des opinions, des jugements, de faire de l'humour, des mots sur des moments ou des situations, notamment politiques dans les derniers mois. Alors qu'au fond, si je m'écoutais moi dans le silence de la nuance et de l'incertitude, bah, la plupart du temps, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Et c'est mon état plus naturel, ça, de douter, en fait. Et je me suis dit que j'en avais marre et que j'avais très envie de retourner vers... de m'intéresser un peu plus au langage intime. Le langage intime, c'est quoi? En fait, on a tous ce qu'on peut appeler des voix intérieures. des mots qui nous traversent, des images, un cheminement. Et cette voix intérieure a été appelée endophasie. Phasie, du grec pour dire la parole, parler, un discours, et endo, un intérieur aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que dans ce langage tel que le décrivent les chercheuses Hélène Leuvenbruck et Stéphanie Smadja, donc elles ont repris d'autres études, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, des psychologues, des neurologues, des neurolinguistes. Donc les chercheurs et chercheuses qui travaillent là-dessus s'aperçoivent qu'en général, il y a quelques caractéristiques de l'endophasie. Il y a ce qui s'appelle le vagabondage verbal. Et donc, c'est des mots qui viennent. Évidemment, ça inspire plus des poètes. J'imagine qu'ils ont plus souvent ça. Et les mots peuvent être attirés les uns par les autres, mais du point de vue non pas du sens, mais du son. Vous voyez, donc vous avez... vous pensez Delphine et vous pensez Fine, vous pensez Saltel et vous pensez Sauterelle. Je ne sais pas. C'est-à-dire que des mots vont venir bousculer, rebondir sur d'autres. Et c'est assez ludique aussi, et ça donne des petits moments un peu de suspension, de poésie. Et donc ce que j'aime, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à ces moments-là, on est très loin d'un jeu qui est en maîtrise de sa parole, et surtout qui juge les autres, qui comprend les situations, qui pose un verdict, une conclusion sur les situations, qui dit c'est bien, c'est mal. Et c'est vrai que ça... J'ai l'impression d'être un peu... de me pousser un peu vers ce type d'attitude, et ça ne me ressemble pas. L'idée d'essayer d'être à l'écoute de son langage intérieur, donc dans cette endophasie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que si on est à l'écoute de soi, mais qu'est-ce que c'est que soi? C'est ça la question, en fait. Et il y a plein de psychologues, de philosophes, etc., qui, depuis le 19e et le 20e, ont mis en doute la notion de soi. Qu'est-ce que c'est soi? Je trouve qu'à force de dire je, ceci, cela, je pense ceci, cela, on crée une fiction très solide qu'on aurait un soi qui serait cohérent. Dans le langage, dans nos têtes, il n'y a pas qu'un je. On se parle à soi, on se dit tu aussi. Mais ça va, t'es conne, arrête, fais pas ça, ou mais tu vas y arriver, on s'encourage, ou alors on se déprécie, ou alors tout simplement, on peut même se dire il ou elle en parlant de soi. Elle est en train de parler à Delphine. Vous voyez, en fait, il y a toutes sortes de possibilités. Et cette façon de dialoguer, d'être traversée de mots, d'idées, c'est beaucoup plus doux, c'est avant le jugement. Dans mes cours de littérature, j'ai enseigné des textes de Virginia Woolf et de Catherine Mansfield, qui est une autrice britannique d'origine néo-zélandaise, qui était une amie en fait de Virginia Woolf et aussi une sorte de... Enfin, elles étaient dans une émulation littéraire, artistique, toutes les deux avec une grande liberté de pensée, de comportement, toutes les deux bisexuelles, à une époque où c'était quand même encore assez rare. Et toutes les deux, dans leurs lettres, dans leurs essais, elles disent « Moi, ce qui m'intéresse... » C'est pas d'écrire juger, c'est avoir dans ma vie des moments d'être. En fait, Virginia Woolf, son expression, c'est « moments of being », des instants de vie plus intenses. Et pour elle, ces moments de vie qui sont précieux, qui arrivent notamment l'été, qui arrivent notamment près de la plage, près de la mer, c'est des moments d'expérience sensorielle où on sort du jeu. Et le paradoxe, c'est que pour sortir de soi, il faut s'abandonner à une sorte d'expérience sensorielle, à cette sorte de vagabondage mental.
Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They are stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past.
Quand l'esprit est fou, traversé par la pensée du passé, du présent, les paroles d'un autre, un poème, et donc il y a des flux de conscience qui nous traversent, et donc Virginia Woolf, Elle l'utilise dans le même paragraphe. Donc tout ça, c'est dans un essai qui s'appelle « Esquisse du passé ». Et là, je vis, elle dit, une forme d'extase, ecstasy. Et l'extase, en fait, ça veut dire, du grec, ex, sortir, stase de soi. Enfin, c'est à l'extérieur de soi. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais bien faire cet été, c'est une petite microscopique extase sortie de soi en ne jugeant pas, ne donnant pas d'avis, d'opinion et d'interprétation du monde. C'est une forme de repos de l'âme.
Cette histoire de voix intérieure qui, si on sait les écouter, viennent nous rappeler ce que l'on a tendance à se dissimuler, nos contradictions, nos incohérences, le fait que tout est toujours plus compliqué, plus riche que ce que l'on croit, à commencer par nous-mêmes, et ben ça m'a rappelé l'idée géniale qu'avait eue Victoire Tuillon en 2018 de faire un podcast où elle donnait la parole à toutes les voix qui s'agitent dans sa tête.
Bonjour. On écoute le rêve du jour et la liste des tâches en cours.
Un peu comme si elle avait tendu un micro à son propre cerveau.
J'ai perdu toutes mes dents. Il faut les retrouver.
Dans la poubelle, sous le bureau du chef, mais... Oh,
je suis toute nue dans la rue. Il faut refaire la clé de la boîte aux lettres.
Ça s'appelle Mental FM. C'est interprété par la comédienne Charlotte Durand. C'est toujours en ligne sur Arte Radio. Et je me suis dit que ça pouvait être une idée de le réécouter cet été pour nous aider à se brancher sur notre fréquence intérieure.
D'autres voix plus lointaines hurlent quand elles le veulent et sans prévenir. Voix de peau, voix de sexe, voix d'organe. Mes entrailles me parlent.
Gratte, gratte. Gratte, 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 gratte.
Bébé, bébé, bébé dedans. Bébé, bébé, bébé dedans. Bébé, bébé, bébé dedans. Bébé, bébé,
baiser.
Maintenant.
Pour conclure en douceur, je suis allée voir Zineb Fassi, la professeure de yoga qu'on a entendue cette année dans Vivons heureux avant la fin du monde, autrice d'un essai bien décapant sur sa propre discipline, le yoga, nouvel esprit du capitalisme. Et je lui ai demandé de nous recommander une position de yoga, pas trop compliquée, que chacun peut essayer de pratiquer à son petit niveau, où qu'il soit cet été. Vous allez voir, c'est tout simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec Zineb Fassi, le yoga, eh ben, ça peut prendre une dimension politique.
Moi, je vais vous proposer un truc, mais si ça ne suscite pas de plaisir chez vous, faites autre chose. Mais moi, je trouve que c'est trop agréable, juste qu'on soit debout, assise, couchée, peu importe, de prendre un moment pour prendre conscience déjà juste de son ventre. Souvent, il est très tendu, très contraint, surtout si on est des femmes qui avons l'habitude de vouloir avoir un ventre plat, etc. Prendre le temps de relâcher le ventre. Déjà, on voit qu'au niveau de la respiration, ça libère quelque chose. Et juste prendre un temps, les yeux ouverts, fermés, pour écouter, quoi. Vous êtes en ville, ça va être les klaxons, les voitures, les bruits des gens dans la rue. Si vous êtes ailleurs, ça va être d'autres environnements sonores. Mais moi, c'est un exercice que j'adore faire. Laisser l'attention devenir vraiment très diffuse. De plus essayer de saisir tel bruit, essayer de comprendre d'où ça vient, etc. Mais c'est un peu comme si on s'élargissait, qu'on se mettait un peu à disposition, à disponibilité. Alors je dis, ça a l'air un peu compliqué, mais en réalité, c'est juste s'asseoir, relâcher le ventre et écouter ce qui se passe autour de nous. Un peu comme si on était justement un peu poreux, que tout ça pouvait nous traverser sans vraiment s'accrocher à notre attention. Moi, quand je pratique ça, mais je ne sais pas si c'est ce que reçoivent les gens, j'ai vraiment l'impression d'être assise là, très présente là où je suis, et en même temps un peu un élément du décor, quoi. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas grand-chose. En gros, moi, j'ai utilisé des jolis mots, mais ce que je propose, c'est de s'asseoir, de relâcher le ventre et de glander, quoi, globalement, de rien faire. Et c'est vrai que ça paraît insurmontable, quoi, pour beaucoup d'entre nous. Ou en tout cas, ça fait peur, quoi. Ça fait peur de plus agir, de plus faire. Ça peut paraître à la fois super simple et en même temps très difficile à faire. Ça peut être des trucs dont on se fait une montagne parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ou qu'il faut que, je sais pas, on ait des épiphanies à chaque fois qu'on soit assis ou que ça amène à des choses grandioses, mais en réalité, non. Enfin, parfois, on s'ennuie pendant 10 minutes. Et voilà. Mais pour moi, c'est vraiment ouais, des bulles un peu où on se met en retrait d'un certain mode de fonctionnement. De surstimulation, des normes dominantes, quelque chose qui est de l'ordre de je me mets en marge momentanément de ce qui est exigé de moi. Alors évidemment, c'est pas politique au sens où ça va pas changer le monde si tout le monde se met à desserrer le ventre et à laisser son attention flotter, mais ça reste quand même des petits actes ouais, d'autopréservation où on n'est pas des personnes qui consomment, où on n'est pas des personnes qui produisent. C'est vrai que, oui, bah, dans ces cas-là, fermer les yeux, c'est quelque chose, pour moi, qui est assez radical, quoi. Qui exprime effectivement un refus, ouais, un acte d'autodéfense.
Voilà. Fermer les yeux. Ouvrez les oreilles. Vivez heureux avant la fin de l'été. On se retrouve à la rentrée.